Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Ouverture ce vendredi matin à Goma, au Nord Kivu, de la 8e édition du Festival Amani. Cette année, l'événement célèbre l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO par l'UNESCO. Notre correspondant à Goma, Gabriel Wamenia, sera avec nous en direct du village et aussi les lieux du festival. En Ituri, les éléments de la milice de la Codeco ont occupé depuis hier jeudi 5 villages du groupement Malabo dans le territoire de Dugou et les habitants ont déserté leur milieu. Le porte-parole des opérations militaires en Ituri rassure que les opérations sont en cours pour récupérer tous les villages aux mains de l'ennemi. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à RDC vient de boucler sa mission de 4 jours ce jeudi 3 février en cours dans la province de la Chopo. Qu'est-ce qui a marqué son attention et que peut attendre la province de la Chopo de l'Allemagne par rapport à son programme d'action en RDC? Docteur Olivier Schneckenberg est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je le disais tout à l'heure au Nord Kivu, les activités proprement dites de la 8e édition du Festival Amani sont lancées dans quelques heures en attendant l'entrée officielle de festivaliers et des autorités. L'heure est à la vente des billets ainsi qu'à l'installation de stands pour les retardataires. Alors nous avons en direct notre correspondant Goma, Gabriel Wamenia. Vous êtes sur le site dénommé Village Ioussi qui a accueilli cet événement. Quelle est l'ambiance qui règne en ce moment? Bonjour Gabriel, vous êtes sur le site dénommé Village Ioussi qui a accueilli cet événement. Quelle est l'ambiance qui règne en ce moment?
Voilà, il faut dire que les décors pour la célébration de la 8e édition de cet événement culturel est déjà planté ici au village du site Village Ioussi qui est situé sur le bord du lac Kivu. Un peu plus loin au sud-est du centre-ville. Toutes les dispositions sécuritaires pour la réussite de ces rendez-vous culturels ont été prises à l'intérieur tout comme à l'extérieur du site. À l'entrée, par exemple, du site, un important dispositif de la police y est déployé et le port des masques est rigoureusement obligatoire. Il y a au moins 4 postes de contrôle et de fouilles avant d'accéder au site proprement dit. Pour l'instant, pas d'engouement comme nous le voyons ici sur le site, mais facilement on peut apercevoir plusieurs dizaines de tentes visiblement encore vides, dont ceux du système des Nations Unies et des organisations internationales comme PAM et les CICR. Voilà.
Alors Gabriel, on sait que ce festival se tient en cette période de la pandémie de Covid-19. Y a-t-il des dispositions sanitaires aux entrées du site pendant les 3 jours du festival?
Voilà, on peut dire que c'est peut-être une fausse note pour cette 8e édition, contrairement aux éditions précédentes. Hormis le port des masques, à l'extérieur, tout comme à l'intérieur du site du village Ioussi, aucun point de lavage des mains n'est encore visible, mais aussi pas de thermoflash pour prélever la température à toutes les entrées, mais aussi à toutes les sorties. Mais peut-être avant de terminer, je vois arriver pour l'instant un camion citerne d'eau de la MONUSCO, c'est peut-être pour faire face à ces défis. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Gabriel Wamenia qui était avec nous en direct du village et aussi le site où se tient la 8e édition du Festival Amani. Alors nous allons rester au Nord Kivu où l'ambassade des États-Unis à RDC vient d'initier un cadre d'échange pour la promotion de la paix, du développement et de la lutte contre les violences basées sur le genre dans la sous-région de Grand Lac. C'est à l'issue d'une conférence régionale de 3 jours qui s'est clôturée hier jeudi à Goma. Elle réunissait une trentaine de personnes qui sont pour la plupart des anciens boursiers du département d'État américain venu du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda et de la RDC. Pour l'attaché culturel à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour une paix et stabilité durable dans l'est de la RDC, il faut l'implication de tous les pays de la sous-région. Madame Charlotte Padaret est au micro de Mathieu Ilunga Chamboui.
C'est pour mettre ensemble tous les anciens boursiers de cette région Les États-Unis pensent que la paix est très importante pour cette région et on a beaucoup de programmes qui focalisent sur la paix en RDC, spécifiquement à Goma. Mais pour la paix d'être stable à travers la région, on doit inclure tous les pays de cette région. Donc, ça inclut le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Notre objectif aujourd'hui est d'utiliser notre ancien poste pour être le dirigeant de cet objectif parce qu'on a déjà choisi les anciens poste pour leur talent dans la communauté, pour les idées et la possibilité de faire le changement dans la communauté. Donc on pense que si tous les anciens poste sont ensemble dans cette conférence pour la réalisation de la paix et aussi pour les activités et les programme qui prend le succès plus fort que le succès qu'on a voit maintenant.
Reste encore au Nord Kivu, où la MONUSCO a installé une base temporaire depuis mardi à Mambasa, chef-lieu de la chefferie des Bamaté, dans la partie sud du territoire de Lubero. C'est pour contribuer à la pacification de cette région qui fait face à un activisme accru des groupes armés. Le chef de la chefferie et la société civile locale saluent cette décision de la MONUSCO, car, disent-ils, la présence des casques bleus va aider à mieux sécuriser les civils. Grâce à Mzati pour les détails.
Selon Alain Mwongo, point focal de la MONUSCO dans les territoires de Lubero, ce sont les casques bleus du contingent indien de la MONUSCO venus de Moulo à Lubero Centre qui ont temporairement installé leur base à Mambasa. L'objectif est de contribuer à améliorer la situation sécuritaire et protéger ainsi les civils face à l'activisme des miliciens Mai Mai. Cela conformément au mandat de la MONUSCO. Le chef de la chefferie de Bamaté, Mwami Mukosa Senge, souligne que cette présence aidera à pacifier la région. Ce que pense aussi la société civile. Auguste Kombi Kisonya est un activiste local.
Nous avons besoin de la paix dans la contrée. Ma proposition, c'est que si on pouvait cumuler les opérations là-bas, MONUSCO et par des polices, ça peut encore donner beaucoup plus de confiance. Nous sommes insécurisés de partout. Les groupes rebelles, on n'a pas besoin d'eux parce que lorsque les groupes rebelles sont dans une contrée, c'est que l'économie baisse, on est traumatisé et ça pose problème. Alors si la MONUSCO vient pour amener un peu soit-il par rapport à la sécurisation des populations et de leurs biens, c'est une bonne chose. Donc nous demandons à tout et chacun de garder leur esprit apaisé de manière à ce que nous ayons la paix totale dans cette partie-là.
Notons que ces derniers mois, les miliciens Mai Mai dans la région s'illustrent par des attaques contre les FARDC et des embuscades contre les populations civiles dont ils extorquent souvent les biens. Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Rendons-nous en Ituri où 5 villages du groupement Malabo dans le territoire des Djougou sont désertés par leurs habitants depuis plusieurs jeudis. C'est à la suite de l'occupation de leur milieu par des éléments de la milice Codeco qui procèdent à la récolte des produits des champs et détruisent des maisons des autochtones. Selon la société civile locale, 2 villages sur les 5 que compte le groupement viennent d'être repris ce matin par 2 militaires FARDC. Le porte-parole des opérations militaires en Ituri rassure que les opérations sont en cours pour récupérer tous les villages aux mains de l'ennemi. Le point de la situation, Jean-Claude Lokidile.
Boujo, Paï, Jili, Uche et Malabo sont les 5 villages de la chefferie des Baguro qui sont occupés par ces assaillants. Sur place, ces miliciens s'accaparent de tous les produits des champs qu'ils trouvent, notamment des pommes de terre et du manioc qu'ils ramènent au marché local pour vendre, ce qu'affirme la société civile. Les maisons sont détruites et les toitures emportées, ajoute Dino Chiramani. Toujours selon la même source, ces miliciens auraient installé leur base à Thelou, proche de ces villages, d'où ils planifient des actions contre les civils. Hier jeudi, des combats ont opposé des militaires de FADC à ces rebelles à Malabo. Les habitants de ces entités, qui pourtant ont commencé à regagner leur milieu à la suite de l'accalmie de ces derniers jours, ont de nouveau fui vers d'autres villages environnants. Ce matin, l'armée a lancé une nouvelle offensive pour déloger ses assaillants, a déclaré son porte-parole en Ituri. La société civile locale confirme l'information et parlait de 2 villages repris par les forces loyalistes. Il s'agit de Jili et Uche. Le responsable de cette structure citoyenne plaide pour l'installation d'une position avancée des FARDC sur place, où ces hommes armés circulent librement. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Et puis, sachez que les victimes de l'attaque meurtrière par des assaillants de la Codeco du camp des déplacés de la plaine Savo, mardi soir dans les territoires des Djougou, vont être inhumées tout à l'heure. Plusieurs personnalités politiques, autorités militaires, acteurs de la société civile, ainsi que l'équipe de la Task Force pour la paix, envoyée par le chef de l'État, prennent part actuellement aux cérémonies funéraires. Un premier groupe de ces personnes a été enterré hier jeudi dans des fosses communes, affirme la société civile locale, qui précise que c'est le gouvernement provincial qui a pris en charge les frais des obsèques. Le bilan définitif dressé par la société civile est de 53 morts, 64 et 43 blessés selon les sources de sécurité. Voilà, et là par contre c'est la question de l'insécurité qui devient grandissante dans certaines localités de la province de la Lomami. Des bandits armés qui ont fait irruption la nuit dernière dans une maison d'un compatriote dans la localité de Moulemeni, secteur de Lukachilualu, territoire de Kabinda. D'après les sources sur place, ces hommes armés ont emporté une somme importante d'argent et quelques marchandises de la victime avant de fuir sur les motocyclistes. Alors nous allons réécouter tout à l'heure là un habitant de cette localité, Sébastien Senga, qui a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Aujourd'hui, la nuit, à 3h du matin, ils ont saccagé chez M. Mario Kabamba pour emporter une somme colossale de 500 000 francs et toute la marchandise qu'il avait. Ils ont été pauvres de toi avec les armes à main. À mes côtés, c'est le commandant de la police. Ont commencé à faire des démarches envers ces sommes plus larges. Ils se sont évadés comme ils avaient la moto. Il avait alerté la nuit là quand nous continuons à faire des démarches.
Voilà, comme je le disais tout à l'heure, hier jeudi, deux hommes armés ont siégé les installations de l'agence locale de transfert de fonds Mpasso Mutombo à Kipushia, dans le groupement de Benakiofwe, secteur de Lufubulomami, dans les territoires de Kabinda. Le responsable de la succursale indique que les braqueurs ont emporté les caisses de l'agence avant de prendre les larges. La police a ouvert une enquête. Alors nous allons revenir maintenant sur le dossier de la publication ce jeudi par la Commission électorale nationale indépendante de la feuille de route du processus électoral. Un outil de communication de la CENI qui n'est pas à confondre avec le calendrier électoral. Alors, qu'est-ce qu'une feuille de route du processus électoral? Réponse dans ce reportage d'Esther Ndalafina.
La feuille de route du processus électoral publiée ce jeudi par la Commission électorale nationale indépendante est un outil de communication de la CENI. C'est une boussole de la centrale électorale. La feuille de route est un document que la CENI remet aux parties prenantes au processus électoral pour ouvrir une brèche aux discussions. Cet exercice permet à la CENI d'apprécier et, le cas échéant, prendre en considération les différents avis émis par les parties prenantes afin d'harmoniser les vues. Quant au calendrier électoral, il y a lieu de retenir qu'il décrit le cycle électoral qui est une représentation schématique, cyclique et continue de l'ensemble des activités ou opérations faisant partie du processus électoral. Seule la CENI est habilitée à élaborer et à publier le calendrier électoral qui sera imposable à toutes les parties prenantes. Lors de la publication de la feuille de route du processus électoral ce jeudi, Denis Kadima, président de la centrale électorale, a indiqué que son institution reste ouverte aux discussions. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Au sud Kivu, ce vendredi 4 février, rappelons que c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et en l'absence d'une politique nationale de dépistage des masses, le docteur Chiruza Baligana, chirurgien oncologue, invite la population à aller régulièrement chez le médecin pour un dépistage individuel. C'est là pour accroître les chances de guérison. Les propos du docteur Chiruza Baligana ont été recueillis par Cynthia Bashizi Nabizana.
Il y a un rapport du ministère de la Santé en 2008, je ne m'abuse pas, qui s'est rendu compte qu'à peu près 40% des décès hospitaliers étaient dus au cancer. Donc c'est un problème réel de santé publique. Moi, j'exhorterais surtout nos populations à se faire dépister, même s'il n'y a pas encore de programme national pour cela. Mais il y a toujours moyen de faire des dépistages individuels. L'objectif de dépistage, c'est avoir un diagnostic précoce, c'est-à-dire la maladie au stade initial. Parce que le cancer est stadifié. Quand c'est en stade précoce, la guérison est assurée, ainsi que le coût du traitement aussi est amoindri. Parce que lorsque le malade arrive en retard, ça demande d'autres moyens thérapeutiques, peut-être que nous ne disposons pas ici, notamment la radiothérapie. Il y a des signes qui peuvent alerter. Par exemple, si on prend le cancer du sein, la dame doit toujours se palper ses seins chaque mois. Et au moins tous les 6 mois, elle peut voir son gynécologue par rapport à ça. Et lorsqu'il sent quelque chose d'anormal, une boule ou un écoulement anormal, il peut consulter. Dans d'autres pays, souvent, c'est des politiques nationales, tout est pris en charge, financé.
Actualité internationale.
Le général Stephen Townsend, chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, l'affirme à nouveau. Wagner est au Mali. Il avait déjà déclaré fin janvier que plusieurs centaines de mercenaires de la compagnie russe se trouvaient sur le territoire malien. Une information qu'il a réaffirmée jeudi lors d'une conférence de presse en ligne.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en RDC vient de boucler sa mission de 4 jours ce jeudi 3 février en cours. Le docteur Olivier Schneckenberg dit être venu en mission diplomatique dans le cadre de son travail. Pendant son séjour Boyomé, il a eu divers contacts avec des différentes personnalités, notamment politico-administratives, structures de la société civile, agences onusiennes. Qu'est-ce qui a marqué son attention et que peut attendre la province de la Tchopo de l'Allemagne par rapport à son programme d'action en RDC? L'ambassadeur allemand en RDC, Dr Olivier Schneckenberg, répond aux questions de Jacques Mokonkoli.
Bonjour monsieur l'ambassadeur.
Bonjour monsieur.
Vous êtes pratiquement arrivé à la fin de votre mission dans la province de la Tchopo. Qu'est-ce qui avait motivé votre déplacement ici?
Oui, alors cette mission diplomatique que j'ai effectuée ces derniers 4 jours, c'est quelque chose qui fait partie de mon travail. J'essaie de me familiariser avec les profils spécifiques de toutes les provinces. Et alors, la Tchopo, c'est ma première province à l'intérieur du pays. Et, mais quand même, j'ai constaté que les problèmes sont pareils à beaucoup de problèmes que j'ai vus dans d'autres régions du pays.
Et qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention?
Ici, particulièrement, ce qui a attiré mon attention, d'une part, ce sont des choses positives. Alors, c'est une province très riche en ressources naturelles, les forêts, la biodiversité. J'ai passé 2 jours à la réserve de Yangambi et aussi, un bien que l'on peut capitaliser, ce sont les jeunes chercheurs, les jeunes aussi qui s'occupent de la protection, de la préservation de la biodiversité. D'autre part, il y a une dégradation catastrophique des infrastructures routières, l'électrification de la province, c'est une catastrophe. Il y a une centrale qui ne marche pas à 100%, mais à peut-être à 60% et qui peuvent guère approvisionner la capitale. J'ai déjà mentionné qu'il n'y a pas d'eau potable, presque pas d'eau potable, et ça c'est un impact en particulier pour les groupes vulnérables comme les enfants et les mamans. C'est une situation intolérable.
Monsieur l'ambassadeur, de toutes ces réalités vécues, vous en avez certainement évoqué avec les autorités provinciales, les structures de la société civile. Est-ce qu'il y a des secteurs qui peuvent être intégrés dans votre programme d'action en RDC pour une éventuelle intervention ici?
Alors, premièrement, nous sommes déjà, disons, engagés en tant qu'État membre de l'Union européenne. Et l'Union européenne est en train d'effectuer dans le cadre de son programme Forêt beaucoup d'appui pour la préservation de des forêts, de la biodiversité et aussi un appui au secteur académique. Deuxièmement, dans le cadre de notre coopération bilatérale, oui, c'est vrai que nous ne sommes pas directement engagés à la Tchopo. Indirectement, nous nous occupons du parc national de la Lomami, mais depuis Kindu et pas depuis Kisangani. Mais je vais, disons, emporter les expériences à Kinshasa pour aussi discuter avec mes collègues de la coopération allemande. On ne peut pas décider unilatéralement que faire. Hein. Dans un tel pays avec beaucoup de défis, on doit discuter avec le gouvernement quelles sont les priorités. Nous avons déjà beaucoup de priorités dans beaucoup de provinces. Et si on veut s'engager dans la Chopo, je ne sais pas, on doit quitter une autre province. Ce sont toujours des options très, des dilemmes très, très difficiles.
Merci, monsieur l'ambassadeur.
Merci à vous. Merci.
Merci aussi à vous pour votre fidélité à la fréquence de la paix. Merci à tout le monde qui a concouru à la production de ce journal. Noëlla Luzitu était à la coordination sous la supervision de Martin Sebujangwe. Mimi Kindou en a assuré la mise en onde. Quant à moi, Piro et la Meji, je vous retrouve dans nos prochaines éditions. Mais vous pouvez réécouter cette édition du journal sur www.radiocapi.net.